et à 14h avec ses charmantes demoiselles. Salut!
Bye!
Une station créée pour les gens de Québec. Pas de script, pas de personnage, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur.
Je vais y aller.
Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes puis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
Know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les zones de Boulevard 102.1, en espérant que tu aies passé une super de belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble ce soir, puisque j'ai un podcast de feu, comme on aime à mon habitude, dans Mars au soir, avec des invités qui sont incroyables. Quelques nuages pour ce soir, la météo, minimum de moins 4 degrés, avec le refroidissement éolien, ça pourrait descendre jusqu'à moins 10 au cours de la nuit, comme température ressentie. Pour ce qui est de demain, mercredi, une belle journée, somme toute, une alternance du soleil et nuages avec un maximum de plus 4 degrés, un peu comme aujourd'hui finalement. Jeudi, ce sera une alternance de soleil et nuages avec un maximum de plus 5. Et vendredi, pluie intermittente ou neige, maximum de plus 3 degrés. Est-ce que vous payez des impôts? Est-ce que vous êtes tanné de payer de l'impôt? L'invité de ce soir va nécessairement vous rentrer dedans parce qu'on a le plaisir de jaser avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables pour 60 minutes. Et ça commence maintenant, tout de suite, avec après le monsieur, avec la grosse voix.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, considérez-vous comme salué, mon cher ami, ce soir?
Bonjour, merci encore pour l'invitation.
Pour les gens qui t'entendent pour une des premières fois dans Mars au soir, la Fédération canadienne des contribuables, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est-tu municipal? C'est-tu provincial? C'est-tu fédéral? Qu'est-ce que vous faites, vous autres, dans vie?
Ben, nous, qu'est-ce qu'on mange en hiver, en fait, c'est essentiellement des politiciens. Non, mais plus sérieusement, de notre côté, on est une organisation à but non lucratif qui existe au Canada depuis 1990. Donc, on va bientôt fêter notre 35e anniversaire. Et pardon, 1991, donc notre 35e anniversaire, c'est l'année prochaine. Je me reprends là-dessus. Mais il paraît qu'on est une organisation qui a un motto très simple. On veut moins d'impôts, on veut moins de gaspillage, on veut un gouvernement plus responsable. Donc, on est une organisation qui essentiellement fait beaucoup d'interventions dans les médias, dans les comités parlementaires. On est présent aussi de manière assez assidue dans les budgets pour présenter soit nos mémoires prébudgétaires dans les consultations qui ont lieu avant ou sinon pour présenter des alternatives par la suite. On publie des rapports à chaque année sur les changements fiscaux qui vont affecter le portefeuille des contribuables à la nouvelle année ou sur les taxes sur l'essence. Donc, on est assez impliqué dans toutes les provinces, au municipal, au fédéral et au provincial. Puis moi, de mon côté, ben, je m'occupe du volet québécois et des affaires francophones au niveau fédéral pour m'assurer ce que les Québécois soient au courant ainsi que le reste des Canadiens français soient au courant de ce qui se passe à Ottawa également.
La Fédération canadienne des contribuables n'est associée à aucun parti politique, municipal, provincial, fédéral, jamais.
Non, d'aucune manière. On est non-partisans et on tient à le rester. On n'a pas le droit non plus. Ça, je me suis fait achaler une couple de fois ces derniers temps, là, mais je n'ai pas le droit d'avoir de carte de membre ou de faire de don à un parti politique. Et j'y prends une certaine fierté. On y prend tous une certaine fierté parce que ça nous permet de travailler justement avec tous les groupes qui sont soit présents à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Ça nous permet justement de continuer à pousser dans le sens des intérêts des contribuables sans non plus se compromettre. Et ça nous permet aussi d'obtenir des gains avec les différents gouvernements qui vont succéder. Donc, la non-partisanerie, c'est important pour nous. C'est sûr qu'on va toujours avoir un biais, comme clairement que nous, on a une position fiscalement conservatrice quand c'est le temps de parler de la gestion des finances. Donc, on croit que l'équilibre budgétaire, ça doit être une priorité. Baisser les impôts pour favoriser la compétitivité, la productivité de l'économie, c'est quelque chose dans laquelle nous croyons très sincèrement. Donc, c'est sûr qu'on va sonner des fois proche de certains partis, qu'on va dire à la limite conservateurs, mais je crois sincèrement que certains enjeux pour lesquels nous poussons qui peuvent rejoindre des gens qui sont à gauche. Souvent, je parle de la question de la transparence du gouvernement, l'imputabilité ou moins de gaspillage. bien, que vous soyez à Québec solidaire ou au Parti conservateur du Québec, ça devrait vous interpeller autant. Vous êtes un contribuable, puis nous, on se bat pour que vous en ayez au maximum pour votre argent ou sinon que vous la récupériez.
Est-ce que les politiciens vous apprécient?
Oui, ça dépend desquels. C'est une très bonne question. J'ai quand même des bonnes relations avec plusieurs politiciens à l'Assemblée nationale, surtout avec qui je travaille. Je ne les citerai pas, mais ils sont dans tous les partis. J'ai des bonnes relations avec des gens au Parti libéral du Québec, au Parti québécois, à la CAQ, au Parti conservateur du Québec. Ils ne sont pas vraiment présents à l'Assemblée nationale, mais on jase une fois de temps en temps et ça me permet justement de pouvoir pousser dans la bonne direction avec certains alliés à l'intérieur. Par exemple, une des campagnes que j'espère qu'il va se réaliser un jour et qui va être victorieuse, c'est la nomination d'un directeur parlementaire du budget qu'on aurait besoin à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose que la Coalition Unie Québec voulait à l'époque qu'ils étaient à l'opposition officielle. Et c'est quelque chose qu'ils ont réitéré vouloir, même, je pense, en 2019, quand il y a une motion qui était déposée en ce sens. Mais c'est quelque chose que le Parti libéral du Québec, le PQ ainsi que Québec solidaire veulent également. Donc, tu sais, ça nous permet justement de travailler avec tout le monde. Puis jusqu'à maintenant, ça va bien. Et mes prédécesseurs ont fait la même chose aussi. Là. Je pense, en fait, je cite au passage mon prédécesseur Renaud Brossard, qui est rendu à l'Institut économique de Montréal. Bien, lui, de son côté, sur la campagne des trop perçus d'Hydro-Québec, bien, il a travaillé justement avec le Parti québécois et le Parti libéral du Québec, justement pour forcer la CAQ à justement faire un projet de loi qui allait inclure les trop perçus, du moins un remboursement partiel des trop perçus d'Hydro-Québec. Donc, c'est faisable, puis c'est d'où l'intérêt justement de rester non-partisan.
Oui, puis quand tu parlais des trop perçus, là, j'ai des images encore de François Legault du temps où il était dans l'opposition qui disait au gouvernement qui était en place à ce moment-là, qui étaient les libéraux, « Vous devez remettre l'argent aux contribuables. Vous devez remettre l'argent. » Puis à partir du moment où ils ont pris le pouvoir, finalement, ils ne voulaient pas nous remettre l'argent, puis ils se sont sentis obligés de nous donner la moitié des trop perçus qui nous avaient pris en tant que clients d'Hydro-Québec. C'est toujours particulier, mais tu sais, pour en revenir à ce que je t'ai posé comme question, c'est-à-dire, est-ce que les politiciens vous apprécient? Si j'étais un politicien, moi, j'aurais avantage à me coller sur un organisme comme vous autres, parce que vous recevez les commentaires des contribuables. Vous êtes un moyen de communication entre le politicien et les contribuables en général. Puis quand vous avez des questions à poser, Nicolas Gagnon, ben, nécessairement, vous pouvez parler au politicien qui va vous dire, ben, savez-vous quoi, nous autres, dans ce dossier-là, on a fait telle affaire. Puis voilà, on vous donne l'information. Mais j'ai pas l'impression que les politiciens ont avantage à se coller sur vous autres si nécessairement ils ne sont pas là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire travailler pour le contribuable qui l'a mis au pouvoir.
Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a un point qu'on peut nommer là-dessus. Là, un accrochage qu'il y a eu entre nous et un parlementaire bien connu. Moi, du moins, il n'est plus parlementaire, c'est Pierre Fitzgibbon. Ça, c'est arrivé justement dans le dossier du projet de loi 2 à l'époque. Où est-ce qu'il y a eu un accrochage, en fait, sur Twitter, où est-ce qu'on s'est... pas pogné, en fait, là, à proprement dit, mais plutôt qu'il y a eu comme un clamant, une incompréhension par rapport à la pression qu'on faisait sur son bureau, parce qu'à l'époque, on voulait justement que le gouvernement accélère l'adoption du projet de loi 2, comme il l'avait promis, empêcher une explosion des tarifs d'Hydro-Québec qui serait refilée aux contribuables, parce qu'à l'époque, il faut comprendre... qu'avec le projet de loi, je pense que c'est 39, si je ne me trompe pas, là, on me corrigera au passage, mais ça avait été adopté en 2019, le fameux projet de loi sur les trop perçus d'Hydro-Québec. Mais à ce moment-là, on n'avait pas mis de garde-fou parce qu'on avait décidé d'ajuster la hausse des tarifs d'Hydro-Québec à l'inflation. Mais on n'avait comme pas pensé de prédire ou de faire des projections comme quoi peut-être dans le futur, il pourrait avoir une explosion de l'inflation. C'est ce qui est arrivé en 2020, 2021, 2022. Et là, ben, le temps pressait, puis on demandait à ce que le gouvernement aille de l'avant avec cette promesse-là de plafonner les tarifs. Bref, nous, notre côté, quand on voit que les politiciens prennent trop leur temps, puis je vais même vous donner un autre exemple par la suite qui est très récent, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des campagnes où est-ce qu'on dit à nos milliers de supporters, des sympathisants aux quatre coins du Québec, parce qu'on en a quand même plusieurs dizaines, voire centaines de milliers à travers le Canada, mais au Québec, on a une bonne base. Et donc, on est capable de leur donner des instructions pour qu'ils puissent se mobiliser et envoyer des courriels au ministre et à son bureau de comté pour le forcer à considérer que ben, peut-être que il est temps d'agir. Et c'est ça, c'est totalement démocratique. C'est pas du harcèlement non plus. C'est pas comme si on le faisait nous-mêmes, là, dans le sens qu'on encourage des gens et les gens vont, de leur propre chef, prendre l'initiative pacifique et toujours dans le respect. On instruit les gens à le faire comme tel pour s'assurer que le message passe bien. Et clairement que Fitzgibbon avait reçu beaucoup de courriels de la Fédération canadienne des contribuables. Récemment, on a fait la même chose avec le bureau de Mme Fréchette, qui est essentiellement la successeure de M. Fitzgibbon, parce qu'on voit que jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de projet de loi qui a été déposé pour abolir le prix plancher sur l'essence qui avait été annoncé l'année dernière. Donc là, on a commencé à commencer à faire monter la pression. Puis mine de rien, savez-vous ce qui s'est passé cette semaine? Bien, il y a un nouveau adjoint parlementaire qui a été nommé par le gouvernement et donc qui va être un adjoint parlementaire de Mme Fréchette. Et ça va être Samuel Poulin, qui est le député de Beau-Sud. Et il s'avère que lui va travailler essentiellement sur quoi? Bien, sur un des aspects qui concerne en fait le prix de l'essence en fait. Donc il y a eu un rapport qui a été déposé à ce niveau-là et le rapport inclut justement des recommandations par rapport à l'abolition du prix plancher sur l'essence et c'est ce fameux rapport finalement qui va être repris par le nouvel adjoint parlementaire. Donc en une semaine, on a fait monter la pression sur un ministère et là, ils vont accélérer le processus pour justement faire en sorte que le prix plancher soit aboli. On va garder la pression, ça c'est sûr, mais des fois, les politiciens nous détestent parce que, comme on l'a vu avec Fitzgibbon, ils prenaient mal la critique. Dans le cas de Mme Fréchette et autres, elle a été assez silencieuse là-dessus, mais elle a quand même passé à l'action, puis on l'a noté.
Ils ont besoin des contribuables pour être élus, mais une fois élus, ils semblent plus vouloir avoir affaire avec le contribuable. Mais moi, je suis content que des organismes comme le tien existent parce qu'on peut faire entendre notre voix à travers votre organisme. Puis pour les gens qui s'intéressent à votre organisme et qui veulent en savoir plus, c'est contribuable avec un S.ca, contribuable avec un S.ca. Tu parlais du prix de l'essence. Je ne sais pas si... tu te rappelles comment ça avait commencé, cette histoire-là? Les députés, là, il y en a la grandeur de la province dans tous les comtés. Et tout ce beau monde-là, pour la plupart du moins, ont des voitures. À Montréal comme à Québec, certains peuvent se promener à pied, certains le font à vélo. J'ai déjà vu Sol Zanetti à vélo régulièrement pour aller au Parlement de Québec. Mais pour la plupart, ils ont tous des voitures. Puis à un moment donné, Samuel Poulin a émis des commentaires comme quoi... Quand il arrivait à Québec, le prix de l'essence était drôlement plus élevé que partout ailleurs au Québec. Alors que le Parlement de Québec est situé à Québec et tous les politiciens, pour la plupart, vivent 3-4 jours ici par semaine. Et il n'y a personne qui avait remarqué ce dit prix de l'essence qui était hyper élevé à Québec. Et là, Pierre Fitzgibbon avait été mis au courant de ça. Peut-être que c'était pour masquer d'autres informations qui étaient peut-être négatives qui sortaient, mais il s'est dit « Oh! » Je vais demander une étude à savoir qu'est-ce qui se passe réellement avec le prix de l'essence à Québec. Finalement, les résultats de cette étude-là, est-ce que tu en as entendu parler? T'sais? Ils en ont peut-être jasé, on en a peut-être jasé un peu dans les médias, mais ça n'a pas fait en sorte que le prix de l'essence a descendu. Puis on se demande souvent si ça existe encore, les fameux cartels de l'essence, les fameuses associations mystérieuses entre des essenceries pour conserver les prix élevés. C'est arrivé dans le secteur de l'Estrie il y a de ça quelques années. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Nicolas Gagnon, mais il y a des essenceries qui se sont fait prendre à collaborer ensemble pour conserver le prix du litre assez élevé dans la région pour faire de l'argent, puis ne pas en perdre, mais l'idée, c'était de faire de plus en plus d'argent possible. Puis ils se sont fait prendre après une enquête. Puis les tapes qui ont été données à ces propriétaires-là, là, c'est des petites tapes sur les doigts. C'était d'un ridicule. C'était des certificats cadeaux de 50 $ alors que ces gens-là nous ont pris énormément d'argent dans nos poches. Pour ce qui est de l'essence, ça, c'est une autre histoire. T'sais. On a bien... On a chiolé après le magazine McLean's là, quand on avait vu le bonhomme carnaval qui était sur le front du magazine McLean's. Puis on parlait de la province la plus corrompue au Canada. Tout le monde était fâché de ça. Mais quand tu regardes ça, autant chez certaines entreprises qui s'associent ensemble, autant qu'en politique, à Montréal, entre autres, on l'a vu là, avec des maires dans la grande région de Montréal, maire de Laval, tu sais, qui il y a une descente chez eux, puis sa femme est en train d'essayer de flocher des billets de sang dans les toilettes pour pas que les policiers puissent mettre la main là-dessus. La corruption existe bel et bien, là, tant au niveau de l'entreprise privée que chez nos politiciens. On n'est pas différent des autres là, au Québec, là.
Non, effectivement, je veux dire, entendons-nous, quand on regarde, par exemple, l'indice de la corruption à l'international, c'est sûr que le Québec est très loin du sommet, mais l'indice de la corruption est toujours établi en fonction d'un différent niveau. Et il n'y a aucun pays sur Terre qui n'en a pas. Donc, il y a de la corruption, malheureusement, ça affecte tous les pays à certains degrés. Maintenant, on se rappelle, il y a eu le cartel du pain aussi au Québec,
C'est
qui a fait
vrai.
beaucoup jaser. Je pense qu'il y avait aussi un cartel de la viande. On a eu quand même plusieurs types de cartels. Puis on pourrait même sauter sur le cartel du sirop d'érable tant qu'à y être. Puis plusieurs pourraient même mentionner que certaines organisations agissent comme des cartels quand c'est le temps de profiter de certaines subventions. Mais on n'ira pas dans ces accusations-là. Mais il n'en reste que pour venir à la question de l'essence. Ça, c'est un point très intéressant que tu as souligné parce que, effectivement, Pierre Fitzgibbon, c'est une des choses qu'il avait faites à l'époque. On parle quand même de 2023-2024. Là, où est-ce qu'il y a un rapport qui a été commandé justement pour comprendre c'est quoi la question de la disparité au niveau des prix de l'essence entre les différentes régions. Puis dans le rapport, dans les conclusions qui ont été emmenées, puis ça, il faudrait que je retrouve le titre exact du rapport. Je pense même que je l'avais sous les yeux il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est l'étude sur le marché de la vente au détail de l'essence au Québec. Donc, cette étude-là a bel et bien été réalisée et ça a amené, entre autres, dans les recommandations, deux choses. La première, c'est l'abolition du prix plancher sur l'essence. Parce que le prix plancher sur l'essence, le monde ne sait pas trop exactement comment ça fonctionne. Mais à la fin, c'est un calcul. Bien, c'est encore fait aujourd'hui, malheureusement, c'est encore existant jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à son abolition. Mais ça a été mis en place en 1997 et c'est à travers la Régie de l'énergie. Donc, à chaque jour, la Régie de l'énergie fait un nouveau calcul basé sur des estimations du prix de l'essence à travers le monde, puis sur le marché local, puis similaire, etc. Il compare, il compare, il compare. Puis c'est un genre de calcul qui est carrément le kafkaesque. Pas grand monde peut le comprendre, puis on ne sait même pas comment ça se fait que la régie fait ce calcul-là, mais ça établit le prix minimum auquel l'essence peut se vendre dans toutes les essenceries du Québec, en fonction, bien sûr, de leur réalité régionale. Parce que des fois, ça diffère quand on est en Outaouais, par exemple, à cause de la proximité avec l'Ontario, ou est-ce que le prix de l'essence peut être plus bas généralement? Donc, il n'en reste qu'à la fin de la journée, ce que ça fait, c'est que si, par exemple, vous êtes une station de service et vous décidez de baisser votre prix parce que vous dites, ben le prix de l'essence est trop élevé, moi j'ai une bonne marge, je pourrais baisser mon prix comme ça me permettrait d'être plus compétitif et d'avoir plus de clients. Sauf que le problème, c'est que si vous faites ça, il y a votre compétiteur de l'autre côté de la rue, qui a une autre essencerie, une autre station de service, qui va pas appeler la régie de l'énergie, mais va plutôt aller voir le site de la régie, va constater que vous ne respectez pas le prix minimum et va utiliser cette notice-là pour dire que vous ne faites pas preuve de commerce, comment dire, de pratique commerciale légale ou respectable. Donc, ça fait en sorte que lui peut vous envoyer une demande, pas une demande, mais une injonction ou plutôt une mise en demeure pour vous forcer à rehausser le prix de votre essence. Donc ça, ce mécanisme a été mis en place au cours des dernières années, puis à plusieurs reprises, il y a eu des intervenants qui disaient qu'il fallait la retirer. Nous, à la Fédération, on a milité pendant plusieurs années pour la retirer, mais juste depuis 2018, là, à titre d'exemple, il y a 4950, j'ai le chiffre encore sur mon mur, là, mais c'est pour ça que je regarde de côté, mais j'ai 4950 mises en demeure qui ont été distribuées aux stations de service donc à travers le Québec depuis 2018 seulement, là, pas loin de 5000. Donc, c'est 5000 occasions manquées pour les automobilistes où est-ce que les stations de service essayaient d'offrir des prix plus bas et en contrepartie, ben, on les pénalisait. Et ça a fait en sorte que, ben, au final, c'est des opportunités qui ont été manquées. Donc, heureusement, le rapport inclut que ça doit disparaître. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait par le gouvernement. Donc, c'est la raison pour laquelle on maintient la pression. Mais l'autre chose qui a été faite, c'est de mettre en place une sorte d'application mobile que vous pouvez obtenir, là, je pense, à travers le site de la Régie de l'énergie et qui vous donne une forme de transparence sur le prix dans chaque station de service en fonction du détaillant et de la marge, etc.
Alors, on a ça chez CAA Québec aussi, entre autres, là, ce que devrait être le prix de l'essence du litre. Mais quand on regarde ça, je trouve que les sanctions ne sont pas assez sévères pour les entreprises qui sont prises à faire de la collusion pour conserver les prix hauts. Puis l'abolition du prix plancher, vous travaillez là-dessus avec la Fédération canadienne des contribuables. Moi, je trouve ça parfait. Puis il faut l'abolir, ce prix plancher-là. Mais quand on regarde les taxes qui sont prélevés sur chaque litre d'essence. Toutes les taxes particulières qui sont prélevées. À Montréal, on a 3 cents supplémentaires. Là. À Québec, on a, quand vous allez à l'immatriculation, on a un 70$ qui est prélevé pour le transport en commun supplémentaire. Je veux dire, tu te dis, sur le prix de l'essence, 3 cents de plus à Montréal, ça donne-tu vraiment un impact supplémentaire? Est-ce que les routes s'améliorent? Est-ce que le transport en commun à Montréal, ça s'améliore? Le REM, es-tu moins en panne parce qu'on donne 3 cents de plus du litre à Montréal. Faut suivre où nous va notre argent. Puis quand tu commences à suivre où va notre argent, on panique bien raide. On se dit, on perd de l'argent épouvantable. Puis c'est pas à l'avantage des politiciens de militer pour un prix de l'essence plus bas, parce qu'à chaque dollar qu'on vous prélève, il y a plus de la moitié qui part en taxes.
C'est effectivement un fait. Au Québec, on a toujours été parmi les juridictions les plus taxées sur l'essence, ne serait-ce qu'en Amérique du Nord. Il y a très peu de places avec lesquelles on peut se comparer, à part peut-être la Colombie-Britannique, qui a toujours eu même un prix plus élevé, entre autres sur le carbone. Mais je pense que ce qui pourrait très fortement jouer en la faveur de ceux qui veulent que les politiciens prennent position pour que l'essence diminue, ou du moins qu'il y ait moins de taxes sur l'essence, c'est ce qui s'en vient le 1er avril prochain. Parce que là, présentement, au Québec, comme vous le savez, on paye une taxe provinciale sur l'essence. On paye aussi une taxe carbone là, qui est cachée. Là, c'est essentiellement 11,7 cents. On paye aussi une taxe d'assises fédérale. Puis en plus, à Montréal, on a le fameux 3 cents pour le transport en commun. Et par-dessus le marché, on rajoute la TPS et la TVQ qui agissent comme la double taxation, ce qui crée comme ne serait-ce qu'un effet inflationniste supplémentaire. C'est carrément... C'est fou. Là. Quand on dit qu'on taxe des taxes, bien, c'est une réalité au Québec, malheureusement. Mais à partir du 1er avril prochain, dans le reste du Canada, l'essence pourrait fort possiblement se réduire de 17,6 cents. Et la raison du pourquoi, c'est avec ce que Mark Carney a décidé tout récemment. Bon, on parle de... Il y a plusieurs qui pensent qu'il a aboli la taxe carbone pour les consommateurs. C'est pas tout à fait vrai. Il a plutôt décidé de la suspendre, donc de réduire à zéro l'intensité de la taxe. Donc, pour l'instant, tant que le Parlement n'a pas été rouvert, parce que c'est actuellement prorogé jusqu'au 24 mars, du moins à moins qu'une élection soit déclenchée d'ici là. Mais pour l'instant, la loi existe toujours. Donc, la taxe carbone est toujours existante, mais en réduisant son intensité à zéro, c'est comme si on disait qu'on l'annule sans l'annuler. Et donc, le 1er avril prochain, dans tout le Canada, où est-ce qu'on paye une taxe carbone, donc, excepté le Québec et la Colombie-Britannique qui ont leur propre système à eux, ben l'essence va baisser de 17,6 cents. Puis là, j'ai fait référence à la Colombie-Britannique qui a son propre système, un peu comme similaire au Québec, mais la réalité, c'est que même cette province-là, ben, le premier ministre néo-démocrate David Eby, a décidé de s'engager à suspendre lui aussi la taxe carbone de son côté. Donc, c'est la première province à l'avoir implanté, puis ça va être une des premières à s'en débarrasser de son propre chef grâce à ce que Carney a fait. Donc, à la fin, vous aurez compris qu'il ne reste qu'une seule province avec un prix sur le carbone ou avec une taxe carbone, puis ça va être le Québec. Donc, l'essence va baisser de 17,6 cents dans les 10 provinces et 3 territoires, dans les 9 provinces et 3 territoires, mais pas au Québec. Et donc, ça va faire en sorte qu'au Québec, on va être peut-être une des places qui va payer le plus cher pour son essence à partir du 1er avril à cause de cette disparité-là. Et bien, je pense que ça va aider à augmenter ne serait-ce qu'un peu la pression sur nos politiciens. Espérons que d'ici là, ils vont finir par abolir le prix plancher sur l'essence parce que ça va bientôt faire un an qu'ils en parlent, ou du moins qu'ils en ont parlé la première fois. Mais en plus, nous, notre côté, on a sorti un communiqué de presse aujourd'hui pour interpeller le gouvernement et leur rappeler que, considérant que le Québec va être la seule place avec une taxe carbone, ça serait pas bon pour notre compétitivité, c'est pas bon pour notre portefeuille. On se pénalise alors que les autres se libèrent de ce fardeau-là. Alors, on espère que François Legault va faire ce qui est nécessaire puis d'abolir le plus rapidement que possible. Mais bon, on attend sa réaction.
Good job! Donc là, en Amérique du Nord, techniquement, il va rester la Californie puis nous dans quelques semaines.
C'est exact. Okay. Du moins dans le même marché commun, oui.
OK. Autre sujet que je voulais aborder avec toi, Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables. J'imagine que tu avais suivi à l'époque la fameuse commission Charbonneau. Lorsqu'il y a eu la nomination de la juge Charbonneau, qui a choisi que la juge Charbonneau allait devenir juge? C'était les libéraux, et c'est les libéraux qui ont choisi aussi Mme Charbonneau pour présider la commission Charbonneau. On n'a aucune raison de croire que cette dame-là a tenté d'aider les libéraux pendant la commission Charbonneau. Je pense qu'elle a fait un très bon travail. Et là, on a une autre commission qui s'en vient concernant les fameux scandales Saclic, le fameux fiasco Saclic. Je sais que vous avez travaillé fort là-dessus. On vient de nommer le juge qui est en place. Ça va être Denis Galland, qui est l'ex-procureur de la commission Charbonneau, qui va présider l'enquête publique de Saclic. On dit qu'actuellement, c'est un choix qui est particulier. Et avec raison, c'est quand ça a été annoncé, moi, ce matin, je regardais ça, puis je me suis rappelé la fameuse commission Charbonneau. Il y avait une avocate qui était exceptionnelle pendant cette commission-là, qui est maintenant devenue une ministre, qui est Sonia Lebel, une proche de Denis Galland. Sonia Lebel est pour la Coalition Avenir Québec. Elle est ministre, et là, on met Denis Galland comme président de l'enquête publique sur le fiasco de sa clique. On dirait que pour le contribuable, on trouve encore un ami qui est mis à une place. Il va-tu tenter de protéger le gouvernement qui est en place parce qu'il y a une de ses ministres qui est dans, une de ses amies qui est ministre dans ce gouvernement-là? On dirait qu'on n'est pas capable d'avoir des gens qui sortent du cercle de la politique. Puis en même temps, bien, la commission Charbonneau, est-ce qu'on a vu Jean Charest témoigner à la commission Charbonneau?
On a vu beaucoup de politiciens témoigner à la commission Charbonneau, effectivement. Ouais. Puis bon, ça n'enlève rien au travail qui a été accompli par la juge Charbonneau à l'époque. Voilà. Mais il n'en reste qu'effectivement, on se dit, qu'on en parlait tantôt, est-ce que ça a éradiqué tous les problèmes au Québec?
J'aurais aimé voir Jean Charest. Est-ce que François Legault, est-ce qu'il va être appelé à témoigner à la commission d'enquête publique sur la SAAQ ou la SACLIC? Techniquement, on devrait le voir.
Ben, ça serait le strict minimum. Je pense, du moins, c'est à quoi on s'attendrait dans un monde normal. Mais dans ce cas-ci, je ne sais pas si on est dans un monde normal à Québec présentement, considérant la situation. Parce que dans un monde normal, un scandale comme ça clique n'aurait pas eu lieu. Là, je veux dire. Donc, dans ce cas-ci, j'ai hâte de voir si les ministres, parce qu'il y a quand même plusieurs ministres qui devraient passer devant la commission, en commençant par ni l'autre que M. Éric Kerr, là, qui n'est plus ministre, mais il est quand même rendu, je pense, adjoint parlementaire. Là, il y a eu une sorte de
promotion. Il reste député.
Oui, il reste député. Il n'en reste que c'est déjà plus que ce qu'il devrait être là, dans ce cas-ci. Mais il n'en reste que lui, il devrait au minimum passer devant la commission Charbonneau, la commission Galland dans ce cas-ci, parce que c'est le nom du juge, M. Denis Galland. Et sinon, il y aurait en plus, bien sûr, Mme Guilbeault, Geneviève Guilbeault, l'actuelle vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, et l'ancien ministre du Transport, M. François Bonnardel. Peut-être que je me trompe à savoir qui est à la sécurité publique là-dessus, mais à la fin de la journée, les deux devraient au minimum passer en commission parlementaire ou en commission d'enquête à cause de leur implication. C'était les ministres en charge du transport, en charge de la SAQ et qui étaient aussi au courant du projet SACLIC et même à certains égards étaient au courant des dépassements de coûts qui allaient avoir lieu et ont préféré garder le silence. Donc, c'est clair et net que dans ce cas-ci, il devrait passer devant la commission Galland. Je l'appelle déjà la commission Galland parce que c'est le nom du juge comme tel. Maintenant, pour venir à son lien de proximité, parce que je disais ça rapidement tantôt, mais le lien de proximité entre lui et Mme Sonia Lebel, qui est l'actuelle présidente du Conseil du Trésor, il faut quand même le rappeler, c'est qu'ils ont travaillé ensemble justement sur la commission Charbonneau. Donc, c'est un lien professionnel qui fait en sorte qu'il y a une proximité entre les deux. Peut-être qu'ils sont très bons amis au-delà de ça. Puis, c'est totalement normal à la fin de la journée dans ce milieu-là, c'est quand même un petit monde, donc tout le monde se connaît un peu. Même chose sur la colline parlementaire. Maintenant, ce qu'on espère, c'est pour prendre au sérieux, je pense, cette commission d'enquête-là, il faut au minimum deux choses. La première, trois choses. La première, c'est de prendre au sérieux toutes les recommandations qui ont été faites par la vérificatrice générale qui a passé au peigne fin le scandale de la SACLIC et qui a dévoilé qu'il y a des forts, possiblement, des conflits d'intérêts, mais qui mêlent, entre autres, les compagnies qui ont fait des appels d'offres par rapport à la constitution, à la conception de l'application ou du moins du site web SACLIC. On veut aussi, si on veut prendre au sérieux cette commission d'enquête-là, il faut que les ministres passent devant la commission. Et en troisième lieu, et ça c'est le moindre, et ça c'est quelque chose qui n'arrive pas assez souvent au Québec, il faut que des têtes roulent. Il faut que il faut qu'il y ait des fonctionnaires, il y a du monde qui sont responsables de ce cafouillage qui a fait en sorte qu'on est passé d'une facture de 600 quelques millions de dollars à plus de 1,1 milliard pour un site web, je tiens à le rappeler. Ils sont responsables de ça, qui ont caché l'information à la population, qui ont tenté de cacher aussi les dépassements de coûts en contournant le système électronique d'appel d'offres du gouvernement pour cacher les dépassements de coûts aux contribuables, en plus dans le contexte d'une année électorale, parce que ça a eu lieu en 2022. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a trop eu de cafouillage, pas de cafouillage, mais quasiment du magouillage pour se dire que ça fait aucun sens qu'il n'y ait pas au minimum des responsables. Je ne dis pas qu'ils finissent en prison, mais oui, qu'il y a des personnes qui soient forcées à la démission, des élus qui soient forcés à démissionner. J'ai hâte de voir si ça va donner ça, mais on s'attend à des conséquences. Je pense que c'est le minimum auquel on s'attend, surtout quand on voit le nombre de commissions qu'on a eues au Québec qui ont trop souvent pas mené à des conséquences réelles. Oui, ça a amené des améliorations. La commission Charbonneau, je pense, est un excellent exemple. Il y a eu une amélioration qui s'est observée, notamment par rapport à la gestion des contrats d'appel d'offres. Il y a plus de vérification qui est faite, il y a moins de corruption. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins qu'avant et c'était une très bonne chose. Mais dans le cas de la commission d'enquête, ça clique. Il faut aller le plus loin possible là-dedans. Et ce qui me dérange le plus, c'est que une commission d'enquête, ça se fait pas sur un coin de table. Ça prend quand même plusieurs mois avant d'être faite. Et l'année électorale, c'est quand même 2026. C'est l'année prochaine. Qu'est-ce qui va arriver avec la commission? Est-ce qu'elle va avoir lieu d'ici l'élection? Est-ce qu'elle va être finalement
c'est ça que
le temps que les élections se fassent? Ça, c'est ce qui me dérange le plus.
C'est ça que je voulais aborder avec toi, parce que dans quelques jours, ça va commencer, cette fameuse commission-là. Puis ça va se terminer dans quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais ce qu'on a dit du côté du cabinet du ministre de la Justice, Simon Barrette, c'est que le rapport final devrait être remis au plus tard le 30 septembre 2025, Nicolas Gagnon. Là, c'est là que j'ai le goût de... On n'a pas le droit de faire ça, gager à la radio, mais moi, quand on me dit qu'on n'a pas le droit, ça, je me dis, je vais peut-être le faire. J'ai le goût de gager un 2 piastres avec toi que les grands penseurs de la Coalition Avenir Québec vont tout faire pour que François Legault n'ait pas à témoigner devant tout le monde. Ils vont tout faire pour le protéger. Ça va être un jeu d'échecs, là. D'échecs pour mettre les pions aux bons endroits pour être sûr et certain que François Legault n'ait pas à témoigner. J'en suis persuadé. Je serais prêt à gager 1-2 piastres parce qu'on va devoir rendre le rapport public avant le 30 septembre 2025.
Alors, moi, c'est drôle, j'ai eu peur que tu dises 30 septembre 2026. Là, ça nous amènerait effectivement juste à la veille des élections. Puis là, je comprendrais qu'effectivement, on n'aurait pas la vérité avant les élections. Puis là, ben, ça sortirait juste pas au grand jour. Dans ce cas-ci, ce que je suis prêt à parier, c'est que, ben, pour moi, c'est un rapport qui ne vaut rien, ou du moins une commission qui n'aura aucune valeur à mes yeux. S'il n'y a pas au moins un ministre qui passe au tordeur d'une certaine manière, là. C'est-à-dire que ce soit Geneviève Guilbeault, François Bonnardel ou Éric Kerr, qu'une de ces trois personnes-là, ou même les trois de préférence, soit amenée à passer en commission. Puis c'est rien de personnel contre ces trois personnes-là, c'est juste que quand on regarde les informations, ce sont les trois personnes qui étaient impliquées dans ce cafouillage, qui étaient au courant de la situation et qui doivent livrer l'ensemble de leur version des faits pour qu'on voit au fond des choses. Parce qu'à la fin de la journée, pourquoi est-ce qu'on est rendu avec une commission? C'est pas juste pour taper sur les doigts des gens. On veut s'assurer est-ce que ce soit pas juste un simple précédent à la question de Saclay. On veut pas que ça se reproduise une nouvelle fois. Puis comment est-ce qu'on peut éviter ça? Bien, c'est en sachant d'abord comment ça s'est produit. Pour l'instant, on connaît juste les rouages, comment dire, certains détails par rapport à comment est-ce que, entre autres, le système d'appel d'offres a été contourné ou comment est-ce qu'il y a eu possiblement un peu de conflit d'intérêts, puis comment est-ce qu'on a même pas fait tous les tests avant de déployer la plateforme. Les gens étaient au courant, mais on est allé de l'avant quand même. Donc, c'est des choses qui font ni queue ni tête, là, en fait, là, pour le commun des mortels et qui méritent d'être mis en lumière. Mais c'est surtout, je tiens à rappeler que Saclay, ce n'est pas le seul projet informatique au Québec présentement là, du gouvernement. Il y en a dans à peu près tous les ministères, puis même Revenu Québec. Et en fait, la plupart des sociétés d'État ont leur propre... ils sont revampés à leur manière, ou ils ont une nouvelle application ou un nouveau site web. Bref, tout ça fait en sorte qu'on a des gros chantiers informatiques au Québec, puis les contribuables, c'est eux qui payent pour ça. Et ben, on veut juste pas se retrouver avec d'autres dépassements de coûts où est-ce qu'on double la facture, puis on se retrouve en plus avec, comme on se rappelle en mars 2023, avec des lignes d'attente devant les points de service de la SAAQ parce que le service fonctionne pas. Non seulement on a mis des centaines de millions de dollars dans ce programme-là, ce site web-là, mais en plus, il fonctionne pas. Puis ça, ben, les contribuables méritent d'avoir des comptes là-dessus, puis ils veulent s'assurer. Est-ce que si on modernise le gouvernement et qu'on modernise ses services, bien, que ça se fasse à un coût qui est raisonnable et que ça ne se fasse pas non plus avec l'abus comme on a vu au courant des derniers projets comme Saclay.
Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent présentement qu'on est avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Vous voulez en savoir plus sur la Fédération, c'est contribuable avec un S.ca. Nick, est-ce qu'il te reste encore un peu de temps? Je te garderai encore une couple de minutes là.
Ben oui, j'ai tout le temps du monde.
Parfait. Tu vois le piton raccroché qui est en face de toi là?
Oui.
Pèse pas dessus, on revient.
Parfait.
Marceau, le soir. Boulevard, le pit stop. 102.1. La semaine, dans Marceau le midi, Marceau et Gravel refont le monde pendant 30 minutes dans le pit stop.
Yes, mon homme!
C'est simple, rapide et efficace. Et surtout, tellement divertissant. Ils n'ont pas la prétention de régler des dossiers, mais ils ont souvent des bonnes idées.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Le Pit Stop. Tous les jours de la semaine, midi.
1, 2, 1.
C'est parti pour le meilleur mois de l'année chez Marlin Chevrolet Buick GMC. Notre événement camion bat son plein avec un taux de financement à partir de 0% sur certains modèles ou une remise au comptant allant jusqu'à 10 500 sur nos camions sélectionnés. Que vous cherchiez un Silverado ou un Sierra, c'est le moment parfait pour en profiter. Pour un vrai bon camion, rendez-vous chez Marlin Chevrolet Buick GMC, 2145 rue Frank-Carrel, votre concessionnaire GM à Québec.
Hey mon gars, t'as des plans pour le lunch?
Ah oh, ben d'habitude je...
Non, aujourd'hui tu trouves ton
Mojo chez Subway.
Mon Mojo?
Mets du piquant dans ton lunch avec la nouvelle sauce Mojo de Subway. Seulement 4,99 dans un 6 pouces à la dinde ou au jambon.
Ok, mais d'habitude...
Oublie ça! La sauce Mojo est fumée, épicée, 4,99. Aujourd'hui c'est pas ton lunch habituel.
Hey, je pense que j'ai trouvé mon Mojo!
Seulement chez Subway.
Dans les restaurants participants. Extra taxes et livraison en-dessus. Expire le 13 avril 2025.
Propulse ta carrière au Centre de formation professionnelle Samuel de Champlain. Nos programmes innovants en administration, construction, maintenance et bâtiments, mécanique conseil et vente te prépareront aux défis de demain. Inscris-toi au cfpsc.qc.ca.
J'ai les meilleurs collègues au monde. Mon emploi? Mais je l'ai trouvé au Salon de l'emploi Lévis-Bellechasse.
Trouvez-vous aussi l'emploi qui vous convient au Salon de l'emploi Lévis-Bellechasse le 21 et 22 mars au Lévis Centre des congrès. Un emploi dans votre domaine, de meilleures conditions, un horaire flexible. Rencontrez des employeurs qui n'attendent que vous. Visitez selb.ca. Le salon est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et nos partenaires OR, CPE La Béquille et des Petits Pommiers, Davy, Exceldor et PepsiCo.
Tu veux économiser pour ton prochain projet? On peut t'aider à y arriver. Change de fournisseur Internet et passe à Oricom dès aujourd'hui. Avec Oricom, profite d'une connexion 100 % fibre, rapide, fiable et économique comme notre forfait 500 Mbps à seulement $47,95 par mois. Réduis tes dépenses et donne vie à tes projets. Abonne-toi en ligne à oricom.ca et commence à économiser maintenant. Tu ne le regretteras pas.
C'est quoi l'événement Avantage Hyundai? L'événement Avantage Hyundai, c'est l'avantage d'une gamme EV primée, l'avantage de plus d'équipements de série, l'avantage d'une garantie de 5 ans, c'est l'avantage des dernières technologies de connectivité et de sécurité. C'est aussi l'avantage d'un taux de financement à l'achat à partir de 0 % plus un boni de 7 000 ou d'un taux de location à partir de 4,29 % pour un paiement de $110 par semaine sur toutes les IONIQ 5 2024. L'avantage d'une fiabilité...
Des conditions s'appliquent. Visitez HyundaiCanada.com pour les détails.
Vous cherchez des experts en maçonnerie? Groupe Fix, établi à Québec, est votre référence. Spécialiste des rénovations, réparations et restaurations, nous travaillons la brique, la pierre et le béton avec un savoir-faire inégalé. Pour vos bâtiments patrimoniaux, nos experts préservent l'intégrité historique tout en assurant solidité et durabilité. Recommandé par CAA Habitation et choisi par les consommateurs depuis 5 ans. Groupe Fix s'engage à livrer des travaux impeccables à temps. Un seul numéro, 1-844-BRIQUE. Groupe Fix, des travaux solides pour des bâtiments durable.
Je pense que si on veut avoir une démocratie saine, on devrait Radio-Canada.
Un monde sans radiodiffusion publique, c'est pas un monde dans lequel on voudrait vivre. Donc c'est essentiel de Radio-Canada.
Si vous voulez protéger notre culture et notre identité, là, vous irez voter pour Radio-Canada.
Ça ne devrait pas être choquant de financer la radiodiffusion publique. Votez pour sauver votre voix. Votez pour sauver Radio-Canada.
Ce message est retenu et payé par l'organisme Les Amis des médias canadiens.
Vous voulez vendre une maison, un immeuble ou un terrain? Les immeubles urbains font des offres d'achat rapides, sans conditions et ce, peu importe l'état de votre propriété. Service simple et efficace. Vendez facilement grâce aux immeubles urbains. Pour plus de détails, visitez immeubleurbain.ca.
Chez Gus, guinguette de quartier, chaque dégustation est une surprise et chaque verre est une découverte. Laissez-vous guider et osez l'inattendu. Venez vivre l'expérience chez Gus Guinguette de quartier. Retrouvez-nous au 101 rue Saint-Joseph-Est. Réservation sur chezgus.ca.
À Québec, un Ford, ça se mange chez Desjardins Ford.
Bonne nouvelle, Desjardins Autocollection est le numéro 1 des ventes au Québec en 2024. Nous liquidons des F-150 2024 jusqu'à 12 000 $ de rabais et le Bronco Sport 2025 est disponible avec un rabais de 2 500 $. Détail des offres sur place. Desjardins Autocollection sur la rue Marais à Vanier.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
On a le plaisir d'être avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. On parle de vos impôts. Où vont vos impôts? Vous avez travaillé extrêmement fort pour en savoir plus sur les dépenses de nos élus. Et Nathalie Roy, la présidente de l'Assemblée nationale, a dû sortir dans les dernières heures pour dire « Attendez un peu, là, moi je suis menotté concernant les dépenses des élus ». Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Pourquoi c'est le sujet du jour, les dépenses de nos élus?
Ben, les dépenses de nos élus, c'est grâce à, une découverte du bureau d'enquête du Journal de Montréal là, qui est sorti aujourd'hui. Là, c'est Mme Lajoie qui a sorti une découverte comme quoi est-ce qu'au courant de l'année 2024, nos élus ont quand même dépensé pas loin de 864 000 $ pour des déplacements à l'étranger, pour des voyages, que ce soit au Japon, en Australie, ou sinon là, aux quatre coins de la planète. Bref, on s'est payé la traite, même plus que l'année précédente, parce que quand on regarde les chiffres en 2023, c'était environ 700 000 $ qui ont été dépensés en déplacement à l'étranger. Donc, c'est quand même une augmentation des dépenses qui est assez particulière pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut se rappeler qu'en 2024, en mars, le gouvernement du Québec nous annonçait que les finances publiques étaient dans le rouge comme jamais auparavant. On annonçait un déficit de 11 milliards de dollars. On n'avait pas de plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Puis j'ai très hâte de voir si on va nous le présenter la semaine prochaine, parce qu'on est supposé avoir un budget le 25 mars prochain. Mais dans l'immédiat, on ne sait pas dans quelle direction on s'en va. On sait juste que le Québec continue de s'endetter et ça sur le dos des générations futures. Et alors qu'on laisse entendre qu'on va faire preuve de rigueur budgétaire puis qu'on va forcer un certain ménage, un régime minceur dans le gouvernement, bon, on apprend que nos élus n'ont pas eu de problème à flamber des dizaines de milliers de dollars, entre autres au Japon, où est-ce que Mme Roy s'est rendue en mai 2024 pour trois députés, trois employés parlementaires ont dépensé, là, ne serait-ce qu'en quelques jours, je pense environ 4-5 jours qui étaient là-bas, ils ont dépensé 93 000 $ ouais. En novembre 2024.
Donc, trois jours dans l'archipel nippon en avril 2024. On parle d'une facture pour Mme Roy, là, qui parle de diplomatie, de 93 000 $ et il y a 75 000 $ qui ont été engloutis dans le transport. Et il y a une escapade en Australie aussi pour Mme Roy, qui fait de la diplomatie. 65 000 $ que ça a coûté aux contribuables québécois. Et elle dit qu'elle respecte les règles et selon les règles, elle n'est pas en mesure de détailler tous ces trucs parce que c'est quelque chose qui aurait été voté en 2021 par la Coalition Avenir Québec.
Comme par hasard, mais ça pour dire qu'en même temps, c'est vrai qu'il n'y a rien qui l'oblige légalement à livrer cette transparence-là. C'est un peu ce qui dérange le plus. Par contre, ça ne coûte rien d'être transparent
et de
remonter des ponts.
Mais Nicolas, pardonne-moi l'expression, là, je sais qu'on est à la radio puis il faut avoir un bon français, là, mais elle est en train de mettre la Coalition Avenir Québec dans marde. Elle dit « Je ne peux pas vous détailler toutes mes dépenses de voyage parce que les caquistes, en 2021, ont établi des règles qui l'empêchent d'être plus transparente et de dévoiler les factures détaillées des déplacements interparlementaires. Hey, cocotte, c'est notre argent! » C'est notre argent, nous, c'est pas la tienne. Je parle au gouvernement, là. Je parle pas à la dame, là. Je parle au gouvernement, c'est notre argent. On devrait avoir tous les détails de ces voyages-là. À quoi ça a servi? Puis en bout de ligne, c'est-tu payant pour le Québec ou si ça ne l'est pas?
Absolument. Ça, c'est la question qui aurait dû être posée avant même que les billets d'avion soient achetés. C'est est-ce que ce voyage-là va emmener une retombée positive quelconque pour les contribuables ou c'est juste un voyage de plaisance qu'on fait sous le signe de la diplomatie puis comme quoi est-ce qu'apparemment on n'a pas le choix de se déplacer pour rencontrer nos homologues parce que Zoom, puis Teams, puis Skype, puis FaceTime, ça n'existe pas apparemment en 2024-2025. Mais il n'en reste que ce que je trouve le plus dérangeant, effectivement, c'est le manque de transparence. Et surtout qu'ils traitent ça comme si c'était des secrets d'État là, de haut niveau. Là. Je veux dire, ça, puis les documents que le gouvernement américain refuse de relâcher sur l'assassinat de John F. Kennedy, c'est la même chose en termes de confidentialité. C'est comme, faut absolument pas que les gens sachent combien de bouteilles de vin on a bu en Australie. Là, secret d'État. Faut absolument pas que le monde sache c'est quoi le type de véhicule qu'on a utilisé. Parce que, tu sais, quand on regarde, par exemple, le voyage au Japon, 93 000 $ de dépenses, mais 75 000 $ de dépenses là-dessus, c'est du transport. Puis je m'excuse, mais c'est pas vrai que c'est tous des billets d'avion. Là. Ils ont dû se promener en voiture. Puis j'aimerais ça savoir si c'est des petites Toyota ou s'ils ont pris peut-être des limousines pour se déplacer. Bref, ça, c'est le genre d'information qu'on aimerait avoir.
Mais Nicolas, 93 000 piastres le voyage sur l'île Nippon, puis 75 000 en déplacement. Non, il s'est passé quelque chose. Là.
Je veux dire... C'est clair que j'ai une poignée dans le doigt quelque part, comme les 9 millions de Québécois.
C'est pas
là,
pour mais... rien. Mais... Elle a la loi que la CAQ a votée de son bord, là, mais c'est pas pour rien qu'elle veut pas parler. Il y a quelque chose. C'est clair qu'il y a quelque chose.
Oui, ben c'est, non seulement c'est clair qu'il y a quelque chose, mais moi, ce qui va me déranger le plus là-dedans, d'ailleurs, il y a la question du gaspillage, il y a le manque de transparence, il y a le fait qu'on ne sait même pas s'il y a un retour pour les contribuables. Mais dans le contexte général, c'est de se dire qu'en 2024, le gouvernement il a les finances dans le rouge comme jamais. Il nous annonce qu'il va falloir se serrer à ceinture. Même Fitzgibbon disait ça à ce moment-là. Il fallait même emmener des coupures jusqu'à Hydro-Québec. Je pense que c'est à partir du 1er novembre 2024. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait un gel dans une bonne partie des embauches dans la fonction publique québécoise, justement pour réduire les dépenses, pour être en mesure de balancer le tout puis avoir un genre de plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Et pendant tout ce temps-là, on a réussi à flamber plus d'argent qu'auparavant pour des voyages à l'étranger. Et je tiens à rappeler que dans le temps de Philippe Couillard, puis il y a bien du monde qui n'ont pas apprécié peut-être les 4 ans là, de 2014 à 2018 de Philippe Couillard, parce que du monde a en tête l'austérité et tout ça, mais à la fin de la journée, ils ont quand même réduit les dépenses des déplacements à l'étranger dans une mentalité de, ben écoute, si on n'est pas en train de faire de la preuve de rigueur budgétaire puis de couper en santé puis en éducation puis tout ça, ben on devrait au minimum couper aussi les dépenses des élus. Mais à Québec, on dirait que depuis quelques dernières années, là, on dirait que c'est vraiment un discours inversé. Non seulement on est très conscient qu'on est en train de creuser davantage la dette du Québec, mais on dépense plus que jamais. On sait en plus, en 2023, on s'est octroyé une augmentation de 30% de salaire pour les députés de l'Assemblée nationale. On a continué à dépenser comme jamais. On fait preuve de moins de transparence comme jamais. Et après ça, on est surpris peut-être que certaines personnes ont perdu confiance en ces institutions démocratiques-là en se disant, coudonc, nos élus, est-ce qu'ils travaillent vraiment pour nous? Ben, je pense que le minimum dans ces circonstances-là, ça serait de démontrer que oui, les élus travaillent pour nous. Donc, ils livrent les factures, qu'ils livrent les reçus de ces transactions-là à l'étranger, puis qu'ils soient plus transparents au minimum. Donc, je suis content que Nathalie Roy a pris le temps de s'exprimer là-dessus aujourd'hui, parce qu'elle nous a dit exactement quel projet de loi il faut donc se battre pour le faire abolir ou le faire amender et faire en sorte que les élus soient maintenant et à nouveau responsables et imputables.
Bon, le budget sort la semaine prochaine, Nicolas Gagnon. Vous attendez à quoi comme budget?
Un autre budget à l'encre rouge, possiblement pire que 2024. Et j'espère me tromper. Je dis pas ça pour... honnêtement, si jamais on a un budget équilibré la semaine prochaine... j'ai être aux anges. Là. Moi, je ne veux que ça. Je veux que le gouvernement du Québec fasse son ménage dans les finances publiques. Je veux avoir des bonnes nouvelles. Je veux avoir le sourire puis revenir avec un communiqué de presse et dire « Regardez, le gouvernement balance, équilibre son budget puis réduit le fardeau des contribuables. » Malheureusement, c'est pas à ça qu'on doit s'attendre. Plutôt le contraire, en fait, on doit s'attendre à beaucoup plus de dépenses. Déjà, M. Éric Gérard, le ministre des Finances, a lui-même indiqué que le déficit serait plus important que prévu. Ça donne déjà une très mauvaise impression de déjà vu, parce que c'est ce qu'on entend depuis quelques temps. Mais par-dessus le marché, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites pour baisser les taxes ou les impôts. Je veux dire, tantôt je parlais de la fameuse taxe carbone, mais malheureusement, je pense pas que la taxe carbone va faire partie des choses abolies. On sait que le gouvernement a quand même reculé sur la hausse de l'impôt sur le gain en capital. Ça, bon, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une des rares choses qu'on doit s'attendre de voir confirmer dans le budget de mars. On s'attend aussi à avoir beaucoup plus de dépenses pour soutenir les entreprises dans le contexte d'une guerre tarifaire. On a entendu plusieurs fois la proposition de donner des aides jusqu'à 50 millions de dollars aux entreprises québécoises. J'ai hâte de voir ça va être quoi l'impact budgétaire de cette nouvelle forme de programme d'urgence du gouvernement, parce que c'est clair que ça va faire augmenter les dépenses, puis malheureusement, les revenus du gouvernement dans un contexte comme on le voit actuellement, avec l'instabilité, puis le manque de ben, surtout à cause de ce qui se passe avec la pression des Américains, avec tout, ben, ça fait en sorte que possiblement que les revenus vont être moins importants que prévu. Mais pour moi, ce n'est pas les revenus le problème. Ça n'a jamais été le problème du gouvernement québécois. C'est les dépenses, et ça, elles sont clairement hors de contrôle. Elles le sont depuis longtemps. J'ai à rappeler que François Legault, quand il est arrivé au pouvoir en 2018, il avait devant lui le plus important surplus budgétaire de l'histoire du Québec. Là, fort possiblement que la semaine prochaine, il va nous livrer pour une deuxième année d'affilée le pire déficit de l'histoire du Québec. Et c'est quoi un déficit? Ben, c'est de la dette de plus. Puis c'est quoi de la dette? Ben, c'est non seulement un montant qui handicape le Québec de sa marge de manœuvre, mais ça nous handicape nous aussi, notre marge de manœuvre en tant que contribuable. Chaque année, ça nous coûte 10 milliards de dollars en intérêts pour payer la dette du Québec. C'est-à-dire qu'on paye des impôts et des taxes pour payer de l'intérêt sur une dette qui continue d'augmenter, alors que cet argent-là, elle devrait aller dans les missions de l'État, devrait aller en santé, en éducation, dans nos services, nos infrastructures, ou même être mis dans nos poches sous forme de baisse d'impôts. Mais à la place de ça, on gaspille ça sur des intérêts. Fait que si on continue d'augmenter les déficits, on va continuer d'augmenter les paiements d'intérêts, et clairement que c'est de la marge de manœuvre dont est privée les générations futures et nous-mêmes, et c'est pas normal à ce stade-ci. Donc, on espère au minimum, là, pour au moins donner un brin d'optimisme aux gens. Si on peut avoir un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire la semaine prochaine, comme ça a été promis, ça serait le strict minimum, puis ça va nous permettre de mieux talonner le gouvernement. Mais c'est clair que le temps file, puis ça commence à coûter cher.
Est-ce qu'on s'attend à au-delà de 11 milliards de déficit?
Oui. Je suis persuadé. Je veux dire, personnellement, comme je le dis, j'espère 100% me tromper. Puis honnêtement, je vais prendre un grand plaisir à me dire, bon, j'ai le 18 mars, j'ai dit ça, puis je le regrette, j'avais tort. Mais l'année dernière, on s'attendait à un déficit de, ben, je veux dire, quand j'en parlais avec des collègues et des économistes, on me disait que le déficit serait plutôt aux alentours de 5-6 milliards. Finalement, c'était aux alentours de 8,9 milliards avant le virement au Fonds des générations. Cette année, si on me dit que le déficit est plus important que prévu, je m'attends à ce que ce soit plus que 11 milliards à cause de tout ce que j'ai énuméré, le contexte économique difficile, la guerre tarifaire, puis les nouveaux programmes de dépenses du gouvernement. Donc, ça risque d'être pire et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de voix présentement à l'Assemblée nationale pour demander à ce qu'il y ait une vraie rigueur budgétaire. La CAQ l'a promis, mais elle ne l'a pas encore livré.
Est-ce que la finalité de son budget, ça va être « on aurait aimé faire mieux, mais le gros orange l'autre bord nous cause du trouble ». Ça va être la faute à Donald Trump.
Ben, il l'a dit lui-même. Il a dit « je suis pas chanceux, je veux dire, j'ai eu la pandémie, puis là j'ai Donald Trump ». Pour une deuxième fois, deuxième fois, parce qu'en 2018, c'est Donald Trump qui était président quand Legault était élu. Mais il n'en reste que, oui, c'est l'excuse facile. C'est ça qui est dommage, c'est que c'est l'excuse facile qui va être utilisée jusqu'en 2028, fort possiblement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va arriver quelque chose au niveau un moindre soubresaut économique, ça va être facile de pointer du doigt toute la pression qui est faite par les Américains, alors que ce qu'on devrait pointer du doigt présentement, c'est le fait que le gouvernement n'a pas fait un seul exercice réel pour faire le ménage dans ses dépenses publiques. Il n'a pas fait de comité de révision des dépenses comme il avait promis. Pour l'instant, c'est ce genre de travail qui est fait en arrière-fond, là, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de réduction de dépenses, il n'y a pas eu de comité qui a été fait, il n'y a rien de ça. Comme tu sais, on parle souvent du Doge québécois, plutôt du Doge que lui aux États-Unis qu'on aurait à avoir au Québec. Ben, on était supposé avoir un début d'initiative comme ça, puis c'est ça le but d'un comité de révision des dépenses, mais il n'y a rien qui a été fait là-dessus. Et d'un autre côté, ben, c'est sûr que si on s'attaque pas à la question de la fiscalité, ce qui plombe la productivité québécoise, les impôts sur les entreprises et les particuliers qui sont beaucoup trop élevés. Puis en plus, qu'on maintient la taxe carbone quand toutes les autres l'abolissent, ça peut faire en sorte qu'en plus, on ait une exode des entreprises québécoises qui s'intéressent davantage à faire affaire dans le reste du Canada où est-ce qu'il y a plus de ce type d'imposition-là. Donc, tout ça étant considéré, c'est Legault, présentement, la balle est dans son camp. Il peut pointer du doigt Donald Trump autant qu'il veut, mais il doit faire le ménage dans sa cour, dans les dépenses, puis aussi dans la fiscalité du Québec, puis alléger le fardeau de tout le monde une fois pour toutes. C'est là-dessus qu'il a été élu en 2018, il faut le rappeler.
Oui. Il y a... Les politiciens ont compris quelque chose au Québec, puis honnêtement, je ne sais pas si c'est comme ça au Canada anglais, si c'est comme ça aux États-Unis, mais au Québec, là, ils ont compris ce que Thérèse et Gaston veulent. Et à chaque 3 ans, 4 ans, donc vers la finalité du mandat, c'est tout le temps l'année des nananes. Fait que là, Thérèse et Gaston, ce qu'ils veulent là, savoir, Nick Gagnon, c'est ça va être quand les nananes pour qu'on puisse revoter pour la CAQ? Ça s'en vient-tu? Bon Dieu, qu'on est excité de tout ça, là. On est moyen, anyway, de redonner comme ça, là.
Ben, c'est sûr que non, on n'a pas les moyens pour des nanas. Par exemple, on aurait... c'est dommage, mais l'affaire, c'est qu'on n'avait pas plus les moyens pour les chèques de 500 $ et 600 $ qui avaient été distribués par la CAQ à l'époque. Nous, la baisse d'impôts, on avait les moyens. Mais clairement, ces moyens-là doivent venir aussi en contrepartie avec une réduction des dépenses du gouvernement. Malheureusement, le gouvernement, ce qu'il a fait au cours des dernières années, c'est d'augmenter ses dépenses constamment, mais il n'a pas fait beaucoup de ménages dans sa fiscalité non plus pour être en mesure de faire en sorte que justement les Québécois payent moins d'impôts. C'est bien beau avoir donné une baisse d'impôts de 1% sur les deux premiers paliers d'imposition, puis on l'a célébré, mais c'est tout ce qui a été fait. Puis sur ces mêmes périodes-là, ou depuis ce temps-là du moins, on a augmenté les charges sociales, que ce soit sur l'assurance-emploi, le RQAP, le RRQ et tout ça. Les taxes municipales ont augmenté, les taxes sur l'immatriculation ont augmenté. Donc, c'est bien beau avoir fait une baisse d'impôts de 1%, mais on attend le reste. J'ai à rappeler qu'en 2022, la CAQ s'est fait élire en promettant une baisse d'impôts pas de 1%, mais 2,5%. Puis finalement, on a appris par la suite que c'était 1% pour le premier mandat, puis si on les réalisait en 2026, on aurait le reste. Ça, c'est une attrape qui n'est pas tout à fait satisfaisante. Mais s'il y a un anane que la CAQ peut livrer là, en bonne et due forme, ça serait une baisse d'impôts. C'est ce qu'on aurait besoin présentement pour aider les entreprises, pour aider les particuliers. Ça ferait au moins un minimum de différence pour surtout faire face aux turbulences économiques actuelles. Mais ce n'est pas des chèques, ce n'est pas des aides ponctuelles qu'on a besoin. C'est vraiment des mesures permanentes.
Mais les nananes en viennent. Là. Gaston et Denise, ils veulent les nananes. Ils attendent les nananes. Les nananes de M. Legault, c'est un bon père de famille. Il donne des distributions de nananes là, à la dernière année de son mandat. On a tellement hâte aux nananes. Est-ce qu'on est... Depuis le temps que tu suis la politique, là, est-ce que tu as l'impression qu'on est achetable avec les partis qui veulent prendre place? On est-tu vraiment achetable? À chaque fois qu'ils nous donnent des cadeaux, on est heureux, puis tu vois que les intentions de vote du parti qui nous a donné des cadeaux semblent augmenter. Là. Tu sais, je regarde la CAQ, quand ils ont donné la distribution des chèques, ça leur a été profitable. Même au fédéral, là, quand Justin Trudeau a donné des chèques pendant la pandémie, ça leur a été profitable aussi. Pourquoi on est achetable de même, Nick?
C'est une bonne question, mais à la fin de la journée, bizarre dit de même, là, puis j'espère qu'on ne va pas me sortir hors contexte, mais tout homme a un prix. Hein, donc, c'est sûr que, je veux dire, il y a des gens que leur prix, c'est 500 $, d'autres que c'est 1 million, ça dépend, mais il y a du monde qui sont effectivement plus faciles à acheter que d'autres. À la fin de la journée, je ne sais pas à quel point ces fameux chèques-là qui ont fait vraiment une différence au niveau de l'élection, ne serait-ce que pour François Legault en 2022, parce qu'il était quand même encore très populaire à cause de la gestion de la pandémie. Peu importe le nombre de critiques qui peuvent être faites là-dessus, à la fin de la journée, il était quand même sur un nuage, une lune de miel qui était quand même qui a été soulignée là, par tous les analystes. Là. C'était quasiment incompréhensible que même après 4 ans d'élection, il était ultra populaire. Donc, l'échec, je ne sais pas à quel point ça l'a aidé. Ça, c'est sûr et certain pour l'élection. Par contre, pour Justin Trudeau, de l'autre côté, ça l'a aidé plus parce qu'on voyait, à cause de l'incertitude du moment, la pandémie... essentiellement, le gouvernement était un peu comme une poule pas de tête à l'époque. Et le monde l'a comme pardonné un peu en disant « bon, on n'a jamais vu ça, une pandémie non plus, donc c'est correct, garoche de l'argent dans toutes les directions pour votre pardonner ». Et c'est un peu ce qu'il a fait. Mais c'est, je veux dire, à la fin de la journée, Justin Trudeau n'est plus premier ministre. Donc ça peut peut-être acheter du capital politique ou acheter de la paix sociale, mais ça va toujours être très temporaire. Dans cette mesure-là, alors que les politiciens ne devraient jamais diriger en fonction de ce qui peut être fait sous forme d'aide ponctuelle, mais en fonction de ce qui peut être fait de manière permanente pour les générations actuelles et futures. C'est pour ça qu'on devrait toujours préconiser un gouvernement qui fait le ménage dans ses finances pour justement réduire le fardeau des contribuables, plutôt que d'un gouvernement qui va acheter le silence des contribuables avec quelques chèques, ne serait-ce que le temps d'une élection, pour ensuite nous réimposer plus tard. Parce que l'argent qu'on a reçu avec le 500 puis le 600 $ on l'a perdu. Je veux dire, il a été repris sous forme de hausse de taxes d'impôts au courant des dernières années, depuis que ça a été mis en place, ne serait-ce qu'au niveau municipal ou provincial. Donc, à la fin, est-ce qu'on a vraiment été gagnant? Pas vraiment. Mais j'espère quand même que la CAQ va avoir d'autres trucs dans son, dans son veston, là, dans sa manche, plutôt que d'autres chèques. J'espère que ça va être beaucoup plus sérieux la prochaine fois, puis que les électeurs vont être plus à l'affût de ces tactiques-là.
Ah, OK. Mais tu as dit que tout homme a son prix. Donc, si je prends une photo de toi, je mets ça sur Marketplace, je mets quel prix à côté de toi, là, Nick, là, si quelqu'un veut faire un bon achat?
Tant que c'est dans les 6 chiffres. Non, mais j'ai
d'autres. C'est dans les 6 chiffres.
Hey, si pas en bas de 6 chiffres.
Ouais. Nicolas Gagnon, merci beaucoup pour la dernière heure qu'on a passée ensemble. C'est toujours un plaisir de jaser. Vous êtes là pour les bonnes raisons. Vous travaillez pour les contribuables et pour les gens qui voudraient se joindre à la Fédération canadienne des contribuables en tant que membre. Ben, c'est possible de le faire parce que ça prend des gens qui donnent de l'argent pour que la Fédération canadienne des contribuables puisse continuer de travailler extrêmement fort pour vous autres. Donc, on s'en va directement sur contribuable.ca, contribuable avec un S.ca. Je te souhaite de passer une belle soirée, puis on s'en jase dans les prochaines semaines, cher ami.
Ben, merci beaucoup à toi aussi, puis à très bientôt.
Bonne soirée tout le monde, on se reparle demain. Salut, bye bye.
Marceau, le soir. C'est payant d'écouter Boulevard 102.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner vos billets pour le spectacle de Jelly Roll le 26 mars prochain au Centre Vidéotron.
Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquettes.
Voici de bien bonnes raisons de vous procurer le Kicks chez Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan. En ce moment, le Kicks est offert en location sur 39 mois pour l'équivalent de 69 $ par semaine. Wow! Et pour souligner que Nissan est ici avec vous depuis 60 ans, vous obtenez un super boni de 1 500 $ et vous courez même la chance de gagner votre achat. Allez, passez chez Beauport-Nissan et Sainte-Foy-Nissan et venez essayer votre Kicks. À compte de 1 599 $, les conditions s'appliquent.
Moreau PRS est le plus important détaillant de solarium à Québec et à Lévis depuis près de 40 ans. Vous voulez du sur-mesure et des matériaux de haute qualité pour votre projet? Pour tout ce qui est patio, rampe et solarium, c'est Moreau PRS.
Salut, c'est Catherine. Vous le savez, tous les matins, je travaille avec un collègue qui se mélange tout le temps dans ses feuilles. C'est à se demander s'il a de la misère avec sa vue.
Votre vision vous joue des tours aussi? Scoop Vision, des lunettes au prix du web.
Soutenir les entreprises.